cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en gourgandine. Tiens, en Juliette Noureddine.
Voilà, c'était Juliette avec les rimes féminines. Donc tout ça pour nous parler et pour arriver à la marche des femmes, la marche mondiale des femmes à Marseille. Donc c'était une réunion avec des femmes essentiellement d'Europe, on va dire d'Europe méditerranéenne. Donc vous allez entendre beaucoup de sons venus d'Italie, du Portugal, d'Espagne, mais il y avait aussi beaucoup d'Algériennes, de Marocaines. C'était très branché sur la Méditerranée. Et c'était donc une rencontre féministe, un des relais de la Marche mondiale des femmes, qui permet en fait de mettre en place une sorte de charte mondiale un peu utopique, on va dire, permettant peut-être un jour d'arriver à une égalité entre hommes et femmes. Donc durant cette Marche mondiale des femmes, il y avait des réunions avec des ateliers, dont vous allez entendre quelques extraits, mais il y avait aussi une grande manifestation à Marseille, sur la Canebière, avec tous les hommes regardant au bistrot et les femmes manifestant pour une fois dans la rue, ce qui est assez rare dans cette ville, donc c'était assez rigolo de voir les réactions. Et puis il y avait tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire ça permettait à toutes les femmes venues d'Europe de se rencontrer pour une fois. Et c'est ça qui est aussi agréable dans ce genre de réunion. C'est pas... Bon, les ateliers sont intéressants, mais c'est aussi tout ce qu'il y a à côté des ateliers. Donc, avant de voir l'à côté des ateliers, on va parler un peu des ateliers auxquels moi j'ai participé, en tout cas. Donc, pour commencer, j'ai été à un atelier qui parlait essentiellement des violences faites aux femmes et qui était surtout axé sur la nouvelle loi espagnole qui est passée et... justement qui lutte contre la violence de genre essentiellement dans les couples. Donc les Françaises étaient très admiratives de cette loi et voulaient vraiment savoir comment les Espagnols étaient arrivés à faire passer cette loi, alors que les Espagnols étaient plus critiques et disaient c'est bien, c'est un début, on regarde, c'est passé, c'est déjà ça, mais bon, il y a des limites et des défauts. Mais en tout cas, c'était bien intéressant de voir justement comment pouvait se mettre en place ce genre de loi, et ça permettait aussi une espèce de convergence des luttes entre les Français, les Espagnols, mais aussi tous les gens qui étaient là, essentiellement de l'Europe du Sud.
Somos mujeres seremos, pero en la casa no nos quedaremos. Mujeres somos, mujeres seremos, pero en la casa no nos quedaremos.
Moi, je trouve qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre les camarades espagnols sur tout le chemin qui a été nécessaire pour aboutir à la loi cadre et surtout sur le contenu de la loi cadre. Alors, sachez que cette loi cadre que nous, au collectif national pour les droits des femmes, on est en train d'étudier et on est même en train, avec toutes nos composantes, d'essayer de faire une proposition de loi cadre en France contient quelque part toutes les revendications que l'on met en avant, contient la satisfaction de toutes les revendications qu'on met en avant, sur la possibilité par exemple d'incriminer les ex-conjoints, sur l'interdiction de la médiation pénale, sur le fait que les femmes qui sont victimes de violences puissent arriver en retard au boulot sans être pénalisées, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'il est très important de connaître le contenu de cette loi. Alors, ce que je voulais dire, je suis quand même très très intéressée par la façon dont les camarades espagnols sont arrivés à cette loi, parce que j'en discutais avec Doris avant que l'atelier ne reprenne, je disais, mais comment vous avez fait? Elle me dit, mais c'est une lutte qui date de longue haleine. Je dis, mais nous aussi on lutte depuis 30 ans en France et dans d'autres pays aussi contre les violences. Et pourtant, je vous jure que pourtant, on n'est pas sur le point d'obtenir cette loi. Je la relisais encore avec la mauvaise traduction française que j'ai malheureusement et avec mon incompréhension sur certains points de procédure pénale espagnole aussi. On n'en est pas là, nous. Alors bien sûr, elle a des insuffisances. Bien sûr, elle ne parle que des violences conjugales. Quoiqu'un certain, je voudrais que les camarades espagnols me le disent, à certains moments... Quand elle parle, par exemple, de prévention dans les écoles, des choses comme ça, ça n'est pas limité uniquement aux violences conjugales. Je pense que, et c'est le sens de la proposition de loi sur laquelle nous sommes en train de travailler en France, facile de l'élargir à toutes les violences faites aux femmes. On ne reconnaît les droits des femmes par rapport aux violences que si elles portent plainte. Et on sait très bien, et en France, l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes qui est sortie dernièrement le prouve. Par exemple, sur les viols entre 20 et 59 ans, les viols vécus dans la vie, uniquement 8% de femmes portent plainte. Qu'est-ce qu'on fait des 92% autres? Comment effectivement, ça c'est une réelle interrogation, une réelle question, les femmes qui n'ont pas porté plainte puissent réintégrer leurs droits. Ceci dit, je pense qu'avec des campagnes comme le prévoit dans la cadre espagnole, de prévention, de sensibilisation, de formation des professionnels, de possibilités, comme le disait la copine catalane, de reconstruction réelle de femmes, de la restitution dans ses droits, on aura déjà une moindre tolérance sociale par rapport aux violences, et peut-être que les femmes commenceront à porter plainte un peu plus. Bonjour et merci aux femmes françaises et celles de Marseille pour nous permettre de parler sur la violence.
Est-ce vraiment difficile, con tant peu de temps, parler?
Cela va être un peu dur de parler avec si peu de temps de cette loi qui lutte contre les violences de genre. Le problème de la violence de genre est un problème structurel. C'est l'expression de la domination masculine qui ne se réglera pas uniquement par la loi.
Ese es el punto de partida del análisis de esta ley.
Cette loi est un outil de base très important pour les femmes et pour la lutte du genre. On peut se demander comment on en est arrivé à une loi si progressiste, même si elle n'est pas parfaite. Cela fait des années que les groupes de femmes travaillent en Espagne sur les violences faites aux femmes. En 2005, en Espagne, il y a eu 25 assassinats de femmes. Ça fait 1,5 toutes les 6 jours. C'est énorme. Et les circonstances de ces assassinats sont à chaque fois cruelles. Et c'est impressionnant. Et chaque fois, on se demande qui va être la suivante. Cette loi permet de judiciariser les violences contre les femmes. Depuis des années, je travaille dans une association de soutien aux femmes battues, et c'est un exemple de ce que fait l'État espagnol pour lutter contre les violences. Ces associations ne font pas que de l'assistance, elles permettent aussi de créer des espaces de lutte, en particulier lors de la lutte sur l'avortement. C'est aussi un moyen de faire pression, et dans les villes où il existe ce genre d'association, les femmes se sentent plus protégées, car elles savent qu'il existe une association qui peut les aider. En Espagne, il s'est passé quelque chose d'un point de vue politique très important, et on n'espérait même pas. C'est grâce au triomphe du Parti Socialiste et l'arrivée de Zapatero, il y a eu un changement profond dans la société espagnole. Et tout le travail que les femmes et les féministes avaient fait jusque-là a été mis en avant par l'État. Même si cette loi est imparfaite, rien qu'en lisant le préambule de cette loi, cela nous paraît vraiment incroyable. Surtout quand on sait qu'en Espagne, jusqu'en 1988, l'adultère était par exemple plus condamné pour les femmes que pour les hommes. Et les contraceptifs y étaient interdits. Il faut dire qu'on venait d'une législation franquiste et qui était basée sur le code Napoléon. Cette loi dit que la violence faite aux femmes n'est pas un problème privé, et ça c'est très important. La violence de genre touche les droits de l'homme. La loi dit aussi que l'État doit respecter ce droit. Et elle dit aussi que c'est un objectif prioritaire pour l'État.
Cette loi dit qu'il faut lutter contre les violences de genre et que la violence de genre est une manifestation des discriminations et des inégalités entre hommes et femmes. Le problème, c'est que dans cette loi, la violence y est essentiellement prise en compte au sein du couple, alors que toute la société est touchée par les inégalités et la domination masculine.
Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que
Nous sommes toujours à Marseille, sur le Vieux-Port, et après cette discussion sur la violence, nous avons été en fait un atelier sur la sexualité et en particulier sur l'avortement. Et pour commencer, on va écouter la situation des féministes au Portugal qui luttent farouchement pour la légalisation du droit à l'avortement, parce qu'il faut bien rappeler qu'en Europe, tout le monde n'a pas le droit du tout d'avorter. Donc en Irlande, en Pologne et au Portugal, les femmes se battent toujours vaille que vaille pour ce droit, et c'est vraiment pas évident du tout. Donc écoutons cette portugaise.
Bonjour, je ne parle bien le français, je vais parler très doucement. Je viens vous parler d'un pays où les femmes sont jugées par avortement. De femmes qui affrontent des audiences dans les tribunaux pendant des mois. De femmes attrapées par la police judiciaire à la porte de l'endroit où elles ont fait l'avortement et menées pour rendre des déclarations ou pour se soumettre à des examens médicaux qui prouvent qu'elles ont avorté. Au cours des 5 années dernières, 30 femmes ont été jugées. La communication sociale a fait la couverture de ces jugements, mais à la décennie précédente, les 84 femmes jugées ont passé en silence. Je viens vous parler d'une longue lutte de presque 30 ans pour que les femmes au Portugal acquièrent le droit à décider de sa maternité, de sa sexualité, du droit à son corps. Celle-ci fut aussi une lutte séculaire, car les femmes ont toujours été désappropriées de leur corps tout au long de l'histoire. Un corps qui a été valorisé en fonction d'une maternité forcée sans droit de décider. Au Portugal, à la fin des années 70, ce furent des associations telles que UMAR, Union de Femmes Alternatives et Réponses, et d'autres groupes féministes, qui ont fait de la pression sur le Parlement pour que la légalisation de l'avortement fût mise à l'agenda politique. Ce fut le cas, mais la loi, alors approuvée, entravait la décision de la femme. Seulement les cas de malformation du fœtus, danger de vie pour la femme ou violation furent pris en considération. Et même dans ces cas, les difficultés sont innombrables pour que la loi soit appliquée. Juste 2% des cas d'avortement au Portugal sont faits à l'abri de la loi. On estime 20 000 cas d'avortement clandestin par an. Au long des derniers 20 ans, la lutte a été dure contre la hiérarchie de l'Église catholique, contre la droite et le conservatisme. On a eu un référendum en 1998 qui ne fut pas vinculatif, car à peine 40% de la population a voté. Le non a gagné par une modique majorité. Pourtant, ce référendum a été accepté politiquement par les partis avec siège au Parlement. Après le référendum, on a voulu imposer du silence dans le pays sur cette affaire. Mais les jugements de femmes ont mené les mouvements de solidarité jusqu'aux portes des tribunaux. La droite commença à éprouver des difficultés à admettre qu'elle était en faveur de ces jugements. Une pétition de plus de 120 000 personnes a exigé un nouveau référendum pour changer la loi. Mais la majorité de droite au Parlement a voté contre. En août de l'année dernière, le gouvernement de droite fut confronté avec la tentative du bateau Women on Waves d'entrer au Portugal. Le gouvernement a interdit son accès et a même placé 2 corvettes en haute mer pour empêcher le bateau d'entrer dans nos eaux. Cette attitude a encore plus isolé le gouvernement, ce qui a contribué pour accélérer sa défaite aux élections dernières. La gauche a gagné les élections. Par conséquent, une proposition pour la réalisation d'un nouveau référendum fut approuvée. Pourtant, le président de la République, qui est un homme de gauche, et qui, si en France, a dit être solidaire avec les femmes jugées par avortement au Portugal, en réponse à une jeune fille qui lui a posé la question dans une école a décidé de ne pas avancer avec la convocation du référendum. Son excuse fut que ça irait tomber sur le mois de juillet. Le fait est qu'avec cette attitude, ce ne sera pas lui à convoquer le référendum, mais si le nouveau président, élu au début de l'année prochaine, il était bien probable que ce soit un homme de droite. La droite ne veut pas de référendum parce qu'il sait qu'il y a de fortes probabilités de perdre. Donc, elle fait du chantage. Pour qu'un référendum à la Constitution européenne se produise en octobre, en même temps que les élections municipales, il faudra changer notre Constitution. Et ça pourra seulement être fait avec aussi le vote de la droite au Parlement. Le président de la République est fort engagé à la oui à la Constitution européenne, laissant donc traîner celui pour l'avortement. J'espère bien que le monde français à cette Constitution européenne s'avère une grande victoire. Ce serait une bonne fessée pour ceux qui, au Portugal, essaient une fois de plus de faire des droits des femmes monnaie de change. Nous voulons que la loi soit changée tout de suite, avec référendum ou pas. Mais le Parti socialiste s'est engagé avec le référendum lors des dernières élections. Il ne veut pas faire avancer le changement de la loi au Parlement. Voyez bien dans quelle mêlée nous en sommes. Certes, d'entre nous menons 30 ans de cette lutte, mais nous ne sommes pas fatigués. D'autres plus jeunes se sont joints à nous entre-temps. L'outrage qu'on nous fait de nous refuser un droit de citoyenneté tel que celui de décider de notre sexualité, de notre maternité, fait augmenter la révolte dans un numéro grandissant de femmes au Portugal. Les gouvernants présentent le pays comme étant en train d'accéder à la modernité. Si seulement c'était au nombre de portables. C'est vrai que nous sommes le pays avec le grand nombre de portables par habitant. Mais par contre, celui où on juge encore les femmes par avortement. La solidarité internationale est très importante pour nous. La télévision et les journaux français sont allés plusieurs fois au Portugal et font des reportages. Cette est une question fondamentale pour faire pression sur les gouvernants. Une directive qui fut approuvée par le Parlement européen pour exercer de la pression sur les pays avec la législation prohibitive pour la changer serait aussi essentielle. Votre action, les réseaux de solidarité créés sont aussi d'une importance vitale. Le mouvement féministe est toujours devenu plus fort, d'où le lien de la solidarité internationale. Je finis évoquant une des phrases les plus criées par les femmes de la marche mondiale à New York en année 2000. Sans solidarité avec les femmes du monde entier.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
Oui, au Portugal, l'avortement est interdit, mais cela ne veut pas dire que dans les pays où l'avortement est légalisé, la situation soit définitivement sûre, on va dire ça un peu comme ça. Par exemple, en Italie, il y a un projet de restriction de l'avortement, et donc justement une copine italienne racontait quelles étaient leurs luttes aujourd'hui pour justement défendre le droit à l'avortement. En même temps, les Italiens sont aussi en ce moment contre l'euro, donc je ne sais pas, avec Berlusconi, c'est pas gagné sur tous les acquis sociaux qu'ils ont obtenus.
La, 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 libre y gratuito. testimonianza, la mia testimonianza è soprattutto legata al fatto che in Italia la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, cioè sull'aborto appunto, che abbiamo ottenuto grazie alle lotte femministe e anche del movimento operario del
Donc le témoignage qu'elle m'a fait, c'est que le droit à l'avortement, je l'ai obtenu grâce aux luttes féministes.
È fortemente sotto attacco.
Et attaqué à son moment.
Perché fra un mese, il 12 e 13 giugno, andremo a un referendum su una legge, la legge sulla procreazione medicalmente assistita.
Bon, vous avez presque tous compris, donc il va y avoir un référendum 12-13 juin, une loi sur la procréation médicalement assistée.
La legge sulla procreazione medicalmente assistita può diventare lo strumento attraverso cui il governo italiano mette in discussione la legge sull'aborto.
Alors cette loi, elle peut être une magouille pour que le gouvernement mette en romena cosa la nostra volta.
D'accord. Io vi dico i tre punti sul quale questo potrebbe essere possibile.
Allora, i tre punti sui quali ça pourrait être possible.
Il primo è che la legge sulla procreazione medicalmente assistita, nell'articolo numero 1, afferma che il concepito è persona, cioè dà lo statuto giuridico all'embrione.
Allora, la prima cosa è che il dit che l'articolo premier de je me rappelle plus quoi, ça donne le statut de personne au
concepito, l'embrione. E quindi se l'embrione è persona, è evidente che ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza significherà assassinio.
Donc si il a un statut de personne, si on fait l'interruzione volontaria di grossesse, ça voudra dire assassinat.
La seconda questione è che questa legge obbliga le donne a sottoporsi a bombardamenti ormonali per produrre soltanto 3 ovuli per volta, che dovranno essere impiantati obbligatoriamente nello stesso momento nel corpo della donna.
E quindi va a avoir un bombardement d'ormone pour que c'est ça le bombardement. Et donc il y aura pour obtenir 3 embryons qui seront obligatoirement tous les 3 donc introduits dans l'utérus.
Dunque, il secondo motivo di cui vi parlavo è che questa legge è una legge che vuole controllare pesantemente il corpo della donna e la procreazione.
Donc c'est une loi qui veut contrôler.
D'accord.
Donc c'est une loi qui veut contrôler le corps de la femme.
E lo troviamo, il terzo motivo è che questa legge definisce che tipo di coppia può accedere alla procreazione medicalmente assistita.
Allora, in più, questa loi va a definire quel tipo di couple può accedere alla procreazione medicalmente assistita.
E può essere una coppia eterosessuale o sposata o stabile.
Ça peut être un couple hétérosexuel, marié ou stable.
Et non si capisce bene cosa significherà stabile, ma il regolamento prevede che per stabile si intende una coppia che convive da 5 anni.
Alors, pour stable, on entend un couple qui vit ensemble depuis 5 ans.
Quindi noi crediamo che questa legge debba essere assolutamente cancellata. Purtroppo non hanno accettato il referendum per abrogare completamente questa legge. Noi andremo a votare soltanto 4 quesiti.
Allora, io penso che questa loi deve essere abrogata, ma non sono arrivati a far passare la loi per... pour faire un référendum sur cette question, donc il n'y a que 4 questions.
E noi speriamo di riuscire a portare il numero sufficiente di votanti al referendum e di fare votare il sì. Se non si voterà il sì, noi in Italia avremo il nostro burqa.
Allora, ils disent qu'ils espèrent che du monde aille voter oui, autrement, même en Italie, il y aura la burqa.
Ok. È un burka simbolico, ma certamente è una legge che è fondamentalista e integralista. Grazie.
Une loi qui est fondamentaliste et intégrante. Intégrista.
Desermos sangre vidas.
Machismo.
Pra qué?
Machismo.
Pra qué?
Machismo.
Pra qué? Pra qué? Pra qué? Mujeres somos, mujeres seremos. Pero en la casa no nos quedaremos. Mujeres somos, mujeres seremos. Pero en la casa.
How can you lie there? Well, the lover destroys you. He doesn't know your worth, but you bear his murder and make it yours. Why do you cry?
Toujours fidèle, moi je suis comme un bébé, comme sur ma table de pierre.
somos agredidas.
¡Machismo!
¿Para qué?
¡Machismo!
¿Para qué?
¡Machismo!
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mujeres somos, mujeres seremos, pero en la casa no nos quedaremos. Mujeres somos, mujeres seremos, pero en la casa no nos quedaremos.
La libertad. La libertad,
la libertad,
la libertad,
la
libertad, la libertad, la libertad, la
Et oui, nous sommes toujours à Marseille avec la marche des femmes qui se baladait sur le Vieux-Port. Donc il y avait quelques sons des revendications féministes. Donc vous remarquez qu'il y a beaucoup, énormément d'Espagnols en force. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis plus sensible à l'espagnol que j'ai enregistré plus d'Espagnols, mais en tout cas elles étaient énormément là. Il y avait aussi beaucoup de féministes belges de la Ligue féministe. Et énormément de Françaises, bien évidemment, qui étaient venues en cette veille d'élection. Donc, nous allons revenir un peu sur quelques souvenirs, finalement, sur l'après-coup de la marche des femmes, en écoutant quelques témoignages, justement, de jeunes filles qui étaient venues pour militer à la marche des femmes.
Je suis Marielle, membre du collectif des féministes pour l'égalité. Donc on revient de la marche mondiale des femmes à Marseille. Peut-être quelques mots pour commencer sur le collectif des féministes pour l'égalité. C'est une association qui a été créée l'année dernière, au mois de mars 2004. Et c'est un collectif de féministes non mixtes qui rassemble des femmes d'horizons très différents. Donc des femmes de toute origine sociale, des femmes de toute croyance aussi, des femmes de tout âge, puisqu'on a entre 20 et 70 ans, on va dire. Donc on est parti ensemble à la marche des femmes parce que pour nous c'est bien sûr un grand moment du féminisme, un grand moment de rassemblement et un moment aussi de convergence des luttes. Il y a eu quelques problèmes d'organisation puisque nous n'avons pas toutes pu entrer dans les forums. On était bien sûr un petit peu déçus puisqu'on venait de Paris pour ça, mais il y a eu d'autres forums, dont un forum sur l'herbe qui était relativement intéressant. La manifestation, la grande marche des femmes était à mon sens une grande réussite. On était très nombreuses, je ne pourrais pas vous dire combien, mais c'était une manifestation assez colorée, assez vive, même s'il y a eu quelques petites déceptions. Alors, on est donc un collectif de féministes qui rassemble des femmes de toute croyance, comme je vous le disais, ce qui signifie qu'il y a des femmes qui portent un foulard et d'autres qui ne le portent pas. Et certaines féministes d'autres mouvements ont quelques réticences à nous accepter et à nous accueillir dans le mouvement. On nous a renvoyés à la fin de la manifestation, c'est-à-dire après tous les mouvements féministes. Certaines femmes sont venues nous voir pour nous dire qu'elles étaient solidaires, qu'elles étaient avec nous et qu'elles nous acceptaient que l'on ait ou non un foulard. Mais d'autres ont une attitude assez méprisante, voire même assez agressive envers certaines d'entre nous, et ça a été un petit peu difficile. Donc on a été renvoyé à la fin de la manifestation, mais on a manifesté avec la bonne humeur habituelle, avec nos slogans pour les droits des femmes, pour l'égalité entre hommes et femmes, mais aussi entre les femmes. Parce que quand on est dans ce genre de mouvement féministe, on se rend compte que l'enjeu est double. Il y a bien sûr la lutte de tous les droits des femmes, mais aussi la lutte pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les femmes, entre celles qui comme certaines copines militantes, portent un foulard et celles qui n'en portent pas.
C'est le racisme, c'est le sexisme,
notre rêve, notre but, c'est qu'un jour on ne parle plus du foulard, que le foulard ne soit plus un problème et que l'on puisse enfin aborder d'autres questions. À chaque fois, on nous interroge sur le foulard, pourquoi certaines copines ont un foulard, comment vous travaillez ensemble, etc. Mais on s'est retrouvés ensemble au moment de l'adoption de la loi de mars 2004 qui interdit les signes religieux à l'école. Et Ce sont des arguments féministes qui ont été invoqués pour justifier cette loi qui exclut les filles des écoles. Et donc, ensuite, parfois les femmes des lieux de travail. Et on s'est réunis parce qu'on a pensé qu'il était important dans le contexte actuel que des femmes avec des horizons religieux et sociaux différents se retrouvent pour militer ensemble. Donc pour militer contre l'exclusion des filles des écoles, pour militer contre l'exclusion des femmes de la sphère publique, et en particulier contre l'exclusion des femmes qui portent un foulard, parce qu'elles sont victimes d'une double discrimination en tant que femmes et aussi en tant que femmes musulmanes. Mais on se retrouve aussi pour discuter des thèmes plus classiques du féminisme. On a eu des grands débats au sujet, par exemple, du droit à l'avortement, et on a manifesté ensemble cette année pour la défense du droit à l'avortement. On se retrouve aussi sur d'autres combats, par exemple pour l'abolition du statut personnel des femmes étrangères ou binationales qui résident en France. Par exemple, une femme binationale qui retourne dans les pays du Maghreb sera soumise à la loi de ces pays et pas à la loi française. Donc, et beaucoup de femmes qui vivent en France et qui ont la nationalité française l'ignorent et elles peuvent être confrontées à de très lourdes difficultés quand elles rentrent dans leur pays. Donc on a un groupe de travail sur cette question, on a un groupe de travail sur les discriminations, donc où là on essaye de faire un travail de terrain partout où il y a des difficultés, enfin en tout cas là où on peut être présente, et on a enfin un troisième groupe de travail sur islam et féminisme, où on essaye de voir comment certaines musulmanes féministes essayent de relire les textes religieux pour faire évoluer les choses au sein même de la doctrine et au sein de la sphère musulmane. Je suis sans religion, donc aussi sans foulard. J'étais très sensible à l'exclusion des filles des écoles. Enfin, c'est une question qui m'a beaucoup touchée. Et on s'est réunis un jour à l'issue d'une conférence féministe avec Christine Delphi et avec des militantes de la meute, de mixité, avec les sciences politiques se rebellent, dont je fais partie. On s'est toutes retrouvées dans un café et on a décidé de créer une association parce que à cette époque-là, justement, on invoquait le féminisme pour justifier cette loi. Et de fil en aiguille, on en est venu à se dire qu'il était important de créer un collectif qui ne s'arrêterait pas à cette question, mais qui militerait aussi pour les autres droits. Parce que ce que nous disons toutes, musulmanes ou sans religion ou avec une autre religion, c'est que nous avons les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, que les questions de discrimination des femmes touchent autant les musulmanes que les autres, mais que tout simplement il y a une discrimination en plus qui les touche et qu'il est important pour cette raison de les défendre aussi.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté sur les marges des femmes? Qu'est-ce que l'avantage pour vous comme association d'y aller?
Ben, on y va exactement pour les mêmes raisons que les autres mouvements féministes, parce que c'est l'un des grands rassemblements. Mais pour nous, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres femmes, d'autres militantes qui peuvent nous soutenir dans notre combat. Par exemple, des femmes qui sont dans les quartiers, comme l'association Sheba avec laquelle on a défilé lors de la manifestation. C'est aussi l'occasion de rencontrer des femmes qui peuvent faire partie de mouvements qui se sont prononcés pour la loi, mais qui, à titre individuel, ressentent quand même qu'il y a un problème et qu'on ne peut pas justifier l'exclusion des filles des écoles. Et c'est surtout l'occasion de s'inscrire dans le mouvement féministe au même titre que les autres, c'est-à-dire de participer au débat sur la démocratie, la parité dans la démocratie, la nécessité d'avoir une forme de démocratie participative et qui ne s'arrête pas uniquement aux institutions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura obtenu une parité, même dans les institutions, il faudra encore que les femmes se réapproprient la sphère publique. C'est aussi l'occasion de discuter des problèmes de violence contre les femmes, qui touchent toutes les femmes de tous les milieux et de toutes les croyances. C'est aussi l'occasion de discuter de la problématique des conflits. Par exemple, il y avait un forum au Conseil général sur ce sujet. Donc c'est l'occasion de se retrouver autour de tous les thèmes féministes. Donc il y avait plusieurs forums. Il y avait par exemple un forum sur démocratie, démocratie, égalité et laïcité, je crois, un forum sur conflit et paix, donc le rôle des femmes dans la construction de la paix et la violence que subissent les femmes dans les conflits. Il y avait un forum sur la contraception et les droits à l'avortement. Je crois aussi un forum sur la violence domestique. Bon, bien sûr, on ne peut pas assister à tous les forums. Mais il y avait enfin, comme dans tous les forums, ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement les discussions qui sont faites dans le cadre assez formel de ces forums, mais c'est aussi toutes les discussions, toutes les rencontres que l'on peut faire au hasard des manifestations, en distribuant des tracts, et ça aussi c'est très important. Oui, ce qui était assez rigolo dans la manifestation, c'était que bien sûr il y avait une immense majorité de femmes qui défilaient et des hommes au bord de la route assez consternés de voir toutes ces femmes défiler en criant par exemple « Les femmes au bristot, les hommes au boulot ».
Je prendrai l'égalité, la 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 la.
Porque fue suficiente hablarle con los ojos desde allí. Si en ese mismo instante su vida era tranquila y feliz, la vino a revolver con bollitos y miel. Mareas en la tierra, el cielo iba cubriéndose de gris. Porque salió en torrente el miedo y las ganas de sentir, y quiso saborear la masa de su pan. Revolvió su calor con su voz, con leche y azúcar, se lo dio a beber. Volvió el corazón, la razón, con unos besos de ron y miel. Horneó con su aliento su pelo y caramelo, parecía el por su almohada le vino a visitar en sueño él, la vino a revolver y se dejó hacer. Estampidas en la tierra, el cielo iba tiñéndose marfil, porque brotó en torrente el verbo y las ganas de sentir. Saborear la masa de su pan. Él revolvió su calor con su voz, con leche y azúcar, se lo dio a beber. Volvió el corazón, la razón, con unos besos de ron y miel. Horneó con su aliento su pelo y caramelo, parecía el saborear la masa de su
avec les oreilles loin du front, et nous sommes à Marseille pour la marche des femmes. Donc on va écouter une copine militante, Gwenaëlle, qui va nous raconter un peu sa marche à elle, la marche des femmes de Gwenaëlle à Marseille.
Elles sont de tout bon et chantent encore quand qu'elles ne sont pas exagères. Paternelle et toujours fidèle, marchons qu'on a des femmes sur la carrière.
Donc, je suis Gwenaëlle Perrier, je suis partie à la marche mondiale des femmes parce que je fais partie d'une association féministe à Sciences Po, c'est les Sciences Po qui se rebellent. J'avais envie d'y aller parce qu'en fait c'est un événement qui n'arrive pas souvent Et donc c'est tous les 10 ou 5 ans selon, enfin tous les 5 ans là en l'occurrence. Et je trouvais que c'était chouette d'une part de voir qui avait, qui était mobilisé, quel thème allait être mis en avant, quelle femme se déplaçait, et puis d'autre part nous de participer en tant qu'assos étudiante. Voilà. Puis il y a aussi le côté festif qui a joué.
Et comment tu es venue, toi, à militer en une assos féministe ?
En fait, quand j'étais à Sciences Po, j'étais sympathisante de l'association. Je trouvais que les thèmes qu'elle mettait en avant étaient intéressants. En gros, on organise surtout des conférences, etc. Je trouvais que c'était assez instructif, on va dire, et diversifié. Et puis ensuite, j'y suis allée, moi, militer parce que j'avais travaillé au niveau académique sur les questions d'inégalité homme-femme et j'ai eu envie de rentrer de l'intérieur. Sachant que y a un côté, comment dire, intellectuel, on va dire, mais il y a aussi le côté cadre associatif que j'aimais bien. Voilà.
Et d'ailleurs, toi, tu fais une thèse sur le genre.
Ouais, je fais une thèse sur le genre, sur la politique d'égalité homme-femme de l'Union européenne dans l'emploi. Et sur son application, donc sur ce qu'elle peut changer concrètement dans les projets pour l'emploi au niveau régional. Je travaille sur l'Île-de-France et sur Berlin. Je pense que c'est intéressant de s'intéresser à la portée de la politique de l'Union européenne parce qu'elle est souvent présentée comme assez volontariste, on va dire, par rapport aux droits des femmes. Et le contenu de la politique en lui-même est parfois controversé. Il y a des critiques féministes assez acerbes. Et d'autre part, le problème, c'est que des fois, dans l'application, etc., il n'en reste pas grand-chose au bout, on va dire. Voilà.
Et est-ce que tu vois un décalage entre la vie associative et justement la politique qui est mise en place par l'Union européenne ?
L'Union européenne, elle est présentée comme une structure ouverte par rapport à ça. Il y a notamment le lobby européen des femmes qui est assez actif. Maintenant, le problème, c'est que ce lobby-là, il est en concurrence avec d'autres lobbies auprès de la Commission, auprès du Parlement. C'est vrai qu'il y a quelques structures. Il y a aussi la Commission des droits des femmes au Parlement européen. Donc, il y a des auditions, etc. Disons qu'il y a une fenêtre d'opportunité, mais maintenant, ils sont en concurrence avec d'autres défenseurs ou défenseuses d'intérêts. Et ce qui est clair, c'est que c'est pas le lobby européen des femmes qui pèse le plus. Le problème en plus, c'est de savoir quel contenu est mis en avant par la politique communautaire, comment sont perçus les intérêts des femmes par l'Union européenne. Et autant, je pense que le lobby européen des femmes est clair, on pose le débat en termes d'égalité, en termes de démocratie, en termes de droits des femmes. Autant dans la mise en œuvre de la politique de l'Union, c'est parfois critiqué, notamment parce que c'est instrumentalisé à des fins économiques, et ça c'est un vrai problème. Après, sur la mobilisation des associations, je pense que les petites assos et les assos de terrain, honnêtement, n'ont pas vraiment accès à l'arène européenne. Donc je sais pas finalement si c'est forcément le niveau. C'est évident que c'est un niveau important, qu'il faut qu'il y ait des associations, des structures qui travaillent à ce niveau-là. Mais sur plein de sujets, notamment sur des sujets autres qu'économiques, je suis pas sûre que ce soit le meilleur interlocuteur. Et c'est important que les gens se mobilisent aussi sur des enjeux beaucoup plus locaux et aussi nationaux. Fin.
Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette marche des femmes ?
Bah, c'était chouette. C'était chouette parce que déjà il y avait du monde, ça faisait plaisir. C'était chouette aussi de voir que d'être visible, on va dire, dans l'espace public à Marseille. Moi j'ai eu l'impression que ça suscitait en tout cas pas mal de curiosité. Et c'est vrai que quand on est dans le milieu associatif, il y a des choses qui sont prises pour acquises, on va dire, puisqu'on fonctionne entre convaincus. Et c'est bien d'aller d'occuper l'espace public quoi pour porter les revendications à l'extérieur. J'ai trouvé que les ateliers étaient intéressants, j'étais contente qu'il y ait beaucoup d'intervenants étrangers. Ça c'était vraiment un point positif de la marche mondiale.
Ouais. Je ne crois pas. Ouais. Ah, il y a bande de Marthe qui avait dans mon quartier. Madame Marie.
Mais qu'est-ce
que tu fais toi?
Tu rigoles, lui, tu rigoles.
Ah, tu es le chef toi.
Envoie
quoi? Tu veux chanter? Ah ouais, tu veux chanter? Envoie le poste. On va voir. Figure comme vous êtes.
Accusé.
Dans mon quartier, j'y suis né.
Et dans mon quartier, j'y suis bien.
Dans la maternité.
Jusqu'à tard au bar du coué.
Chez nous, on parle avec les pieds.
Ah ouais, chez moi, on parle avec les mains.
On met tout droit dans les pieds.
Spécialement dédicacé aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, ethologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières, costumière, couturière, façonnière, gantière, lingère, ménagère, guichetière, secrétaire, romancière, aventurière, vas-y, continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacée aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices ou galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes, techniciennes, aux gardiennes, électriciennes, mécaniciennes, aux comédiennes, pharmaciennes, musiciennes, pharmaciennes. À toutes celles saisonnières, céréalières ou journalières, qui pour un travail égal à celui qui font le mal, la qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Votre corps n'est pas une marchandise. Les femmes dans la rue et pas sur les trottoirs. Notre corps n'est pas une marchandise. Les femmes dans la rue et pas sur les trottoirs. Notre
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, à l'écoute des oreilles loin du front. Et vous écoutiez justement les femmes qui étaient dans la rue à Marseille pour la Marche mondiale des femmes. Donc la Marche mondiale des femmes qui allait de Sao Paulo à Ouagadougou en passant par Marseille. La prochaine étape, c'est le Burkina Faso. Alors les filles, hein, si vous avez des sous, à mon avis, c'est une bonne option militante et touristique. Et ça peut être très intéressant d'aller au Burkina Faso pour le prochain relais de la Marche des Femmes.
Achetez les femmes, achetez, vendu, violé. Sans quitter les maisons, les femmes, hors du monde relégué. Le vent nous parle d'esclaves et brise nos entraves. Debout, debout, debout. Seul dans notre malheur, les femmes, vivent de l'autre ignorée. voulons diviser les femmes et de nos sœurs séparer. Devons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous délignées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout.